Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Carlos Solano pour discuter du Miracle à Milan de Vittorio De Sica dans le but de réhabiliter ce film méconnu et peut-être un peu incompris du cinéaste italien. Mais pour commencer, je suis avec Céline Gobert pour parler de l'œuvre du cinéaste américain Robert Eggers qui est réalisateur notamment de The Witch, The Lighthouse et tout récemment de Northman. Bonjour Céline.
Bonjour Alexandre.
Alors la raison pour laquelle je voulais parler de Robert Eggers avec toi aujourd'hui, c'est notamment que The Witch et The Lighthouse nous avaient donné une certaine idée de ce que c'était le cinéma de Robert Eggers. Et là, avec The Northman, même si je pense qu'on peut reconnaître une certaine cohérence vis-à-vis des films précédents, j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de rupture. Alors, j'avais un peu envie qu'on revienne à la lumière de ce nouveau film-là sur les précédents pour peut-être voir comment The Northman s'inscrit dans leur continuité et en quoi aussi il s'agit d'une rupture. Et pour ça, évidemment, on va commencer par le commencement et parler de The Witch, qui, selon moi, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, reste un des films d'horreur les plus marquants des 10 dernières années.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un film d'horreur marquant aussi parce qu'on y découvre pour la première fois au cinéma la patte caractéristique et particulière de son auteur, donc Robert Eggers, réalisateur américain de 38 ans, originaire de Nouvelle-Angleterre, qui débarque donc, c'est ça, avec The Witch en 2015. Et il se fait remarquer cette année-là à Sundance, où il est récompensé à titre de meilleur réalisateur dans la catégorie US Dramatic. Donc rapidement, The Witch, ça raconte la descente aux enfers, si on peut dire, d'une famille d'anglais puritains qui se retrouve isolée sur une ferme. Famille qui vient en fait de s'établir en Amérique, en Nouvelle-Angleterre, donc là où le cinéaste a passé son enfance. Donc on est dans les années 1630, le père a été banni de sa communauté à cause d'un conflit religieux. Donc lui, sa femme et ses quatre enfants sont forcés d'aller habiter dans une modeste demeure à la lisière d'une forêt. Et un jour, le plus jeune, le bébé en fait, disparaît. Il semble avoir été enlevé par quelque chose ou quelqu'un venu des profondeurs de la forêt. Et cette disparition marque le début d'une série d'événements terrifiants. Donc ça, c'est un peu le départ de The Witch. Donc avec ce premier film, on assiste vraiment à la naissance d'un auteur gothique qui va pousser ce style de plus en plus loin, on va le voir, au fil de sa filmographie. Alors d'abord avec The Lighthouse, qui va déjà un peu plus loin avec son ratio d'image carrée, son 35 mm, son noir et blanc. Puis on le verra ensuite avec The Northman, qu'on pourrait qualifier d'œuvre absolue en la matière.
Et je trouve ça intéressant aussi que tu mentionnes les origines de Robert Eggers, parce que pour moi, The Witch, c'est fondamentalement un film régional, là, en ce sens que c'est un film qui baigne dans l'atmosphère et aussi l'histoire de la Nouvelle-Angleterre et dans l'espèce d'esprit particulier du gothique américain. Alors oui, tu as mentionné cet esprit gothique qui traverse son œuvre. Ça commence très clairement avec The Witch.
Oui, très clairement. En fait, l'une des premières images gothiques du cinéma d'Eggers, l'une des plus frappantes, surgit à la 9e minute environ de The Witch. On y voit la silhouette d'une sorcière, donc une vieille femme monstrueuse qui vient de s'enduire de sang. Et Eggers la filme de dos. Puis derrière elle, en arrière-plan, on voit une immense lune blanche et tout autour d'elle, il y a des arbres morts et avec leurs immenses branches nues. Là, on est dans une image qui rappelle vraiment l'expressionnisme des œuvres des années 1920 comme Nosferatu, le cabinet du docteur Caligari ou le golem. Dans cette même idée, The Witch nous réserve des séquences nocturnes. Eggers il filme à la flamme des bougies, des clairs-obscurs et plusieurs motifs du gothique. Déjà commencé par le lieu clos inquiétant, donc de la maison. Mais on a aussi la forêt sombre, la brume, le corbeau. On a d'ailleurs une des séquences les plus effroyables du film où l'oiseau vient carrément picorer le sein maternel. Donc c'est assez horrible. Le film parle aussi de sorcellerie, de menaces du démon, de Satan, incarné par ce bouc noir, donc l'inoubliable Black Phillip.
Meilleur score du meilleur bouc pour l'histoire du cinéma.
Les fans le reconnaîtront. Là, oui. Donc, mais Eggers l'a dit dans plusieurs entrevues, mais le passé colonial de la Nouvelle-Angleterre, dans laquelle il a grandi, est très présent dans son inconscient depuis qu'il est enfant. Donc, comme tu le mentionnais plus tôt, ce qu'on voit finalement dans l'esthétique du film aussi, c'est la propre projection mythique que se fait Eggers de cette terre finalement cerclée d'horreurs et de fantômes du passé. Après, ce style-là, on le voit déjà aussi dans ses trois premiers courts-métrages. Donc, c'est d'ailleurs pas pour rien que son premier qu'il tourne en 2007, c'est une adaptation du conte horrifique Hansel et Gretel. Et son deuxième de Telltale Heart, l'adaptation de la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe. Donc, Poe, les frères Grimm, on voit déjà que ce qu'il influence au départ, ce sont des auteurs qui ont utilisé soit l'architecture gothique en arrière-fond du fantastique, dans le cas de Poe, ou des motifs horrifiques du genre pour les frères Grimm. dans Hansel et Gretel, qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs. Il l'a tourné en fait comme un film muet, donc il déploie déjà une imagerie vraiment inquiétante en noir et blanc, et on y voit d'ailleurs la première sorcière de l'univers des Girls, donc qui annonce un peu, si on peut dire, celle de The Witch. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle est interprétée dans ce court-métrage par sa propre mère, Kelly Eggers. Donc c'est plutôt drôle en fait quand on regarde comment il dépeint les mères à travers son œuvre jusqu'à The Northman, même si on ne dévoilera rien de l'intrigue. Puis dans Brothers, son troisième court-métrage, aussi disponible sur YouTube d'ailleurs. Donc lui, il est sorti en 2015. Puis en gros, il filme l'affrontement entre deux frères sur une ferme encore, qui se trouve encore près d'un bois. Et on a aussi cette mère un peu monstrueuse. Donc la seule phrase qu'elle va décrocher à son fils quand il va lui dire qu'il n'est plus un enfant est « You ain't shit ». Donc ça donne un petit aperçu encore une fois de l'amour maternel chez Eggers. On y reviendra, mais la femme est de toute façon le plus souvent une menace dans ses films, ou du moins elle est présentée comme la corruptrice, l'incarnation du démon. Dans Brothers, on a aussi encore une fois cet imaginaire gothique, donc je pense à un plan sublime où Eggers filme le sommet d'arbres morts en contre-plongée, donc avec des branches sans feuilles qui se balancent au vent. Donc à ce moment-là, les branches ressemblent à des griffes, enfin c'est vraiment une image saisissante. Puis c'est ça, la fiction gothique, elle est véritablement caractérisée par ce type d'environnement terrifiant où on a constamment une présence menaçante d'événements surnaturels qui peuvent à tout moment surgir dans le cadre. Donc cette utilisation des bois impénétrables, sauvages, de la peur, en fait, qui vient du fond des bois, on la retrouve évidemment dans The Witch. Dans ce film, on a aussi un autre genre d'influence plus surprenant qui est l'influence de l'univers du black metal et qui abonde follement dans The Northman, avec des mesures même, mais qui est déjà un peu présent ici malgré le côté moins furieux en apparence. Donc ça, on le voit dès qu'il utilise la musique tonitruante, les violons, les genres de montées en puissance émotionnelle presque théâtrale. Donc là, je pense à la séquence de possession du jeune garçon Caleb, mais aussi au déploiement de tout l'imaginaire satanique qui culmine dans la scène finale. Donc on a une séquence mémorable de cérémonies, de rituels féminins et de pactes avec le diable. Donc de manière générale, le black metal puise aux sources du folklore païen, de l'iconographie religieuse et de l'occulte, des éléments qui en fait inspirent directement le cinéaste, et on le voit dans tous ses films. Donc voilà, pour te résumer, en fait, je dirais que le style Eggers, c'est un peu ça. C'est cette espèce de mélange gothique entre l'inquiétante noirceur de l'expressionnisme et la folie sombre du black metal. C'est vraiment ce qui caractérise son œuvre.
Il y a définitivement une parenté d'esprit avec le black metal, tant sur le plan des thématiques que dans l'équilibre qu'il cultive sur le plan esthétique entre l'intensité et une sorte d'approche atmosphérique là, qui se nourrit de la noirceur ambiante. D'ailleurs, son film suivant, The Lighthouse, poursuit un peu dans la même veine, et c'est un peu le film de la consécration pour Eggers sur le plan critique. C'est un huis clos qui se déroule, comme son titre l'indique, dans un phare isolé. Et on reste dans le registre de l'horreur, même si c'est d'une manière quand même assez particulière, puis c'est dans une veine aussi qui est parfois assez absurde, un peu grotesque même, j'ai envie de dire. C'est quand même un film qui débute sur un duel de flatulence entre Robert Pattinson et Willem Dafoe. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner pour donner une idée de l'esprit du film là aussi.
Alors oui, ça vaut la peine de le mentionner, car il y a aussi ce retour au comportement primitif dans The Northman aussi. Je pense particulièrement à cette scène où le père, incarné par Ethan Hawke, puis le fils se comporte comme des chiens. Mais cette fois, je crois que c'est plutôt un duel de rôles auquel il s'adonne.
Oui, puis en fait, c'est drôle. Quand j'ai vu cette scène qui se passe assez vite dans le film, puis qui peut désarçonner au début parce qu'on ne sait pas encore trop ça va être quoi le ton du film, puis il y a un truc un peu solennel et théâtral dans l'introduction qui est comme vite brisé par cette espèce de duel de rôle-là, mais c'est très certainement, on va le dire, un cinéaste des gaz, en tout cas. Là.
Mais bref, pour revenir à The Lighthouse, donc le film sort, c'est ça, 4 ans après The Witch, donc en 2019, puis Robert Pattinson et Willem Dafoe y interprètent deux gardiens de phare isolés, donc ils vont peu à peu perdre la raison et s'affronter dans ce lieu clos. Le film a été écrit par son frère Max, en fait, et il s'inspire librement d'un ouvrage inachevé d'Edgar Allan Poe, encore lui. Puis il est présenté au Festival de Cannes à la Quinzaine, où il remporte le prix de la critique internationale. Donc on voit qu'en deux films, Eggers s'est déjà bien imposé quand même comme un auteur incontournable de notre époque. Ici, dans The Lighthouse, il renoue avec son goût pour l'esthétique des films muets qu'il avait déjà exploré dans son premier cours. Là, il s'appuie notamment sur le travail physique des acteurs, puis sur l'utilisation d'un ratio d'image particulier. Mais je te dirais que surtout, The Lighthouse cristallise un peu l'une de ses obsessions, qui est celle pour le langage. Donc, dans The Witch, il s'appuyait sur de véritables lettres écrites à l'époque par des puritains pour écrire ses dialogues, en fait, ou même sur des contes populaires. Puis, tu avais la police du titre aussi, avec ce W qui était écrit avec deux V. Donc ça, il l'avait tiré d'une vieille affiche de l'ère jacobéenne. Et dans The Lighthouse, il utilise aussi le vieil anglais. Donc on a un vocabulaire issu d'écrits ou de dialectes de l'époque.
Oui, un aspect qui est intéressant dans le cinéma de Robert Eggers, c'est cette volonté de créer une impression d'authenticité, j'ai l'impression, à travers des effets qui ne relèvent pas nécessairement du réalisme ou du naturalisme. On joue la carte de la reconstitution fidèle. Il y a beaucoup d'articles d'ailleurs au sujet de The Northman qui mettaient l'accent sur ça, alors que quand on voit le film, ce n'est pas nécessairement la seule chose qui nous passe en tête, disons, la reconstitution puis sa fidélité. Mais c'est évident que tout ce qui relève de la direction artistique, ça obsède Robert Eggers, mais en même temps, la mise en scène multiplie, comme tu le mentionnais d'ailleurs, les renvois au cinéma d'une autre époque pour créer une sensation d'une image qui vient en quelque sorte, j'ai l'impression, d'un autre temps.
Oui, c'est clair qu'on retrouve cette même attention aux détails et aux lieux dans tout son cinéma. Dans The Witch, la maison est véritablement un personnage à part entière du film. Ici, dans The Lighthouse, c'est le phare, donc parfait symbole phallique, évidemment, mais aussi cette île côtière venteuse. Donc Eggers, il va puiser dans le folklore des marins, dans les mythes grecs, de Zeus à Prométhée. On a aussi cette sirène corruptrice qui entraîne le personnage masculin dans la folie. Donc, encore une fois, on a cette figure, on voit, de femme tentatrice qui semble catalyser le pire de l'homme, mais aussi une utilisation d'images très sombres qui sont de l'ordre du cauchemar, quelque part entre horreur et surréalisme. Que ce soit avec ces vagues là déchaînées qui s'écrasent sur les rochers, ou ces tempêtes, ces mouettes dévoreuses de chair. Donc thématiquement, dans The Lighthouse, il s'agit aussi pour le personnage principal, donc incarné par Pattinson, de se libérer d'une figure d'autorité opprimante. Donc ça, c'est une idée qu'on a aussi dans The Witch, puis aussi quelque part dans The Northman, où le personnage, on le voit, est obsédé, mais en fait complètement enfermé et façonné par son obsession de vengeance. Donc The Lighthouse fait également écho à des thématiques très shakespeariennes qui étaient aussi présentes dans The Witch, à travers la figure du père rigide et autoritaire. En fait, Eggers, il explore constamment la fureur des hommes, leur orgueil, les conflits intérieurs qui les assaillent, et aussi cette notion grecque d'hybris, donc qui désigne en fait un sentiment de violence, un désir de vengeance provoqué par la passion et l'orgueil. Donc en gros, hein, c'est un peu le synopsis de The Northman.
Totalement, même.
Donc on voit à quel point l'univers très atmosphérique de Eggers est cohérent, en fait. Et même ces trois films sont différents, ils contiennent tous les obsessions formelles et thématiques de leur auteur. Ensuite, l'autre chose intéressante concernant The Lighthouse, c'est aussi peut-être de parler d'à quel point cette intensité de mise en scène, mais aussi cette intensité thématique, puis ça, tu l'as mentionné un peu plus tôt, frôle le grotesque à de nombreuses reprises. Donc, contrairement à The Witch, où l'humour était absent, Eggers bascule, on le voit souvent dans le comique dans ce film. Donc, on dirait comme s'il essayait de décharger un peu l'intensité de ce qui est montré à l'écran. Et ça, évidemment, ça fait le lien parfait pour parler de The Northman, parce que pour sa part, lui transforme un peu cette matière grotesque en véritable revendication de cinéma, si on peut dire.
Ben oui, ce qui rend le cinéma de Robert Eggers tolérable dans un certain sens, c'est qu'il est conscient, puis on le voit déjà très bien dans The Lighthouse, du fait que le ridicule est un peu indissociable de l'intensité puis de la surenchère. Puis en fait, je pense que ce qui rend The Northman digeste, parce que le résultat, on va se le dire, aurait très bien pu être imbuvable, je vais te laisser en parler plus en détail, mais on a quand même affaire à un film qui joue à fond la carte de la théâtralité dans sa mise en scène, en plus de beurrer épais sur la mythologie viking et la violence outrancière. Donc, c'est ça, cette espèce de ridicule et de grotesque-là rend peut-être ça un petit peu moins insupportable.
Ah oui, exactement. Dans The Norseman, on est vraiment dans l'outrance, dans le théâtral, comme tu dis. On va le voir, mais c'est ce qui l'intéresse aussi le plus ici, davantage même que l'histoire, en fait, qui tient vraiment quelques lignes. C'est un simple récit de vengeance. Donc, bon, avant de creuser cette idée, on va peut-être rappeler de quoi parle The Northman. Ça raconte en fait l'histoire d'Hamlet, donc personnage qui s'inspire d'une légende scandinave dont...
Hamlet, A-M-L-E-T-H, ça vaut la peine de le mentionner parce que...
Voilà, ouais, mais Shakespeare s'en est aussi inspiré pour son Hamlet, donc voilà.
Il y a un H au début, exactement. Bref, enfin...
Donc, c'est son histoire à ce prince viking, en fait. Donc, enfant, il assiste au meurtre de son père des mains de son oncle. Donc, un oncle qui ensuite enlève sa mère et qui lui vole, si on veut, son royaume. Donc, à partir de là, Hamlet, dans le film qui est incarné par Alexander Skarsgård, il se répète inlassablement le même mantra « Je te vengerai, père, je te sauverai, mère, je te tuerai, Fjolnir ». Donc quand il grandit, devient de ces vikings forts et virils, donc il sème la mort, la désolation sur son passage, jusqu'au jour où il parvient à retracer son oncle. En fait, il se fait alors passer pour un esclave qui lui est destiné. Et là, sur l'embarcation qui le conduit jusqu'à son oncle, il fait la rencontre de la mystérieuse Olga. Olga, qui est donc incarnée, elle, par Anya Taylor-Joy, qui n'est personne d'autre que la comédienne qui incarnait The Witch. La différence avec ces autres films, c'est que pour nous raconter tout ça, Eggers, cette fois, il déploie une mise en scène très, très brutale. À côté de ça, Conan le barbare, c'est presque un film pour enfants. Donc, il accentue tout ce qui fait son style. On a une palette chromatique grisâtre, très appuyée, avec des filtres à n'en plus finir. Tout est traité de façon très viscérale, lyrique, en fait. C'est un film furieux. Il y a du gore, des cris, de la violence. Et on revient encore une fois à Shakespeare. The Northman, c'est une véritable fresque shakespearienne, donc sur l'orgueil des hommes, leur violence, leur noirceur, et cette espèce d'univers masculin, Eggers, il le pousse vraiment jusqu'à l'extrême, la démesure, au point des fois, moi, je regardais l'écran, puis je croyais même pas ce que j'étais en train de voir. Donc, je veux dire, la fin, c'est quand même deux hommes qui se battent nus, complètement nus, au milieu des flammes d'un volcan en éruption, quoi. Donc,
Oui, non, c'est une scène complètement marquante. Puis, je veux dire, quand les gens me demandaient de parler du film, je faisais juste leur dire, c'est le genre de film qui se termine comme ça. Puis, ah oui, d'accord, je vois.
C'est ça. Puis, on en revient encore une fois à cette veine absurde et grotesque que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, voilà. Puis, dans cette espèce de. Dans ces images-là de nature époustouflante ou d'hommes à l'intérieur de cette nature, on a encore une fois Eggers qui explore la place de l'homme, de l'humain face aux puissances naturelles. Donc c'était déjà le cas dans The Lighthouse aussi. On a dans The Northman souvent deux idées contraires qui coexistent dans le même plan. C'est-à-dire on a cette idée que le personnage dispose de la toute maîtrise du paysage dans lequel il évolue. Alors qu'en même temps, le paysage souligne son insignifiance face aux puissances naturelles. Donc on a vraiment cette impression qu'Eggers filme constamment la petitesse de l'homme face à une nature qui serait indomptable et menaçante. Puis jusqu'au fond des bois de The Witch, il y avait déjà ces mystères occultes, puis cette force que l'esprit humain ne semble pas pouvoir entièrement saisir. Donc dans The Lighthouse, l'île, les démons qu'elle habite submergeaient complètement les deux hommes aussi. Donc, puis dans The Northman, il y a aussi cette espèce de rapport boueux à la terre. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais ça se donne une idée de la façon dont les personnages se connectent à la nature dans ces films. Donc, toujours avec un certain retour au primitif, comme on le disait plus tôt. Dans The Witch, c'était renforcé par le fait qu'Eggers filmait en lumière naturelle, dans des décors entièrement éclairés à la bougie. Mais dans The Northman, c'est amené complètement différemment et poussé encore une fois à l'extrême. Mais on parle quand même ici d'un budget colossal de 90 millions de dollars. Et ça se voit dans chaque plan. Hein. Les paysages sont majestueux, les effets spéciaux grandioses.
Oui, c'est d'ailleurs un peu un miracle qu'il ait réussi à avoir 90 millions pour un film qui tient dont le synopsis tient comme ça, sur une genre de napkin un peu surréaliste. Là.
Exact. Puis ça commence très fort. On a Ethan Hawke avec son fils, il mime des chiens sauvages, se nourrissent à même des gamelles d'eau ou de bouffe. Bref, c'est quand même quelque chose. Donc, on a les animaux, les hommes qui se confondent. Les animaux sont même dotés d'une intelligence incroyable dans ce film, il faut le mentionner, puisque ce sont les corbeaux qui libèrent quand même, sans aucune logique, le personnage de Célien dans la scène où il est fait prisonnier. Donc, on est quand même à un autre niveau.
Mais il y a toute une tendance, il y a tout un rapport à l'animal qui devrait être exploré chez Robert Eggers, parce que ça, depuis Black Phillip, ça le suit. Hein,
ça, c'est vrai. Mais de toute façon, tout ce qu'il a entrepris dans ses deux précédents films, on le constate, on le voit tout de suite. Hein. Dès les premières secondes de The Northman, on fait immédiatement le lien avec The Witch. On a ce corbeau qui passe devant la caméra. On fait le lien avec The Lighthouse. On a cet horizon orageux, une mer déchaînée. Donc voilà. Mais là où il y a une rupture avec ces deux autres films, c'est véritablement dans ce geste un peu fou qui bascule constamment du côté de l'absurde, voire même de l'ironie ou de la blague. On sait pas trop ce qu'il fait. On se demande souvent s'il est sérieux ou pas. Donc il y a à la fois un film qui se lit au premier degré et un film qui se lit comme une blague, si on peut dire, mais une blague folle, démesurée, ultra violente, écrasante. Mais on commençait quand même à entrevoir ce mouvement vers l'absurde dans The Lighthouse avec ces éclairs comiques dont on a parlé plus tôt. Mais pour le reste, cette tendance à aller jusqu'à l'extrême, je te dirais quand même que c'est assez inédit.
Pour moi, un des aspects les plus intéressants de The Witch, c'était peut-être la façon dont le film venait quand même réhabiliter la figure de la sorcière en créant une ambiguïté à son sujet. C'était à la fois une menace intangible et une figure d'émancipation quand même complexe, là, dans le contexte suffocant du puritanisme protestant. The Lighthouse, pour sa part, c'était vraiment un film presque entièrement masculin, à part pour cette sirène, donc, qui jouait sur l'espèce de virilité toxique de ces deux protagonistes. Il y a encore un peu de ça dans The Northman. Je pense encore une fois au combat final complètement absurde, comme on le disait, qui oppose deux hommes nus. Je pense que ça mérite de le répéter, dans un volcan en éruption. Mais les personnages féminins, malheureusement, ont pas nécessairement la richesse ou justement l'ambiguïté de ceux qu'ils avaient dans The Witch. Hein.
Non, c'est vrai. Ça, c'est vraiment la déception un peu de The Northman. C'est que le trio féminin dans ce film est inférieur à ce qu'on a vu avant en termes de complexité. On a par exemple cette figure de la mère donc incarnée par Nicole Kidman. Je veux pas spoiler le film, mais disons que le personnage réserve certaines surprises.
Oui, puis en fait, c'est drôle parce que on s'attardera pas là-dessus, mais je pensais qu'il y a une scène centrale au film où on pense que le personnage va gagner une complexité supplémentaire, puis finalement, il retombe très vite dans la caricature.
Oui, exact, parce qu'en fait, avec les trois femmes, c'est Nicole Kidman, ensuite on a Björk qui incarne une sorcière, un genre d'oracle occulte, puis Anya Taylor-Joy donc, qui incarne un personnage féminin plus doux, bon, un peu l'amante. Donc avec ces trois femmes, c'est ça, on n'a pas vraiment de complexité, on a une espèce de trinité maman, sainte, putain, habituelle. Et voir dans ce cas précis, en fait, un étrange mélange des trois. Mais ça, c'est un peu décevant. Après, c'est ça, la figure féminine, quand on y réfléchit, n'était pas non plus très élaborée dans The Lighthouse. Ça a été réduite à une sirène diabolique et vaguement érotique. Mais personnellement, mettons comme ça fait deux fois, là, ça m'a un peu fait repenser la lecture féministe de The Witch. Mais féministe au sens littéraire, je veux dire, où le film, qui, en plus de ce que tu mentionnes du contexte du puritanisme protestant, le film semblait aussi rappeler, du moins indirectement faire écho à un courant existant qui est celui du gothique féminin, on en revient au gothique, puis qui a été symbolisé par des auteurs comme Anne Radcliffe ou Mary Shelley ou Charlotte Bronté. Et dans ces romans gothiques féminins, le surnaturel servait en fait à aborder l'insatisfaction des femmes envers le patriarcat, leur en place, leur position au sein de la société, que ce soit dans l'espace domestique, du mariage ou de la maternité. Et donc, est-ce que Eggers était conscient de ça dans The Witch, ou bien finalement il nous a sorti une sorte de variation de la femme corrompue et corruptrice qui semble dominer dans son œuvre, je sais pas. En tout cas, c'est propice au débat, c'est sûr, mais il faudra peut-être observer ce qu'il fait dans ses prochains films pour y déceler des intentions ou non.
Oui, parce qu'à la limite, j'ai l'impression que The Northman utilise son ancrage dans la mythologie comme une sorte d'excuse pour faire abstraction de ces enjeux-là, ce qui est un peu décevant, effectivement, comme manière de le voir, là. Mais ce qui intéresse Eggers avec The Northman, je pense que c'est vraiment juste de faire ce qu'on mentionnait tantôt, une sorte de film total au risque d'écraser tout ce qui relève de la nuance. Là, ça m'a fait penser, tu l'as dit, au Conan de John Milius, au Excalibur de John Borman, aussi déjà on sort des noms qui évoquent un certain cinéma de la grandiloquence. Là, je pense aussi même à Ken Russell, qui avait des gens donc, qui n'avaient pas peur de donner dans la surenchère et dans l'artificialité si c'était au service d'un effet cinématographique. Et dans ce sens-là, je pense que le film a quand même quelque chose d'excitant pour un cinéphile un peu blasé par les dernières années de production cinématographique, là, dans la mesure où il s'inscrit dans un courant actuel ou même, j'ai l'impression, une sorte de contre-courant qui joue la carte de l'outrance un peu déréglée en opposition à une certaine standardisation, j'ai envie de dire, des images et des récits du cinéma commercial actuel.
Oui, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'autre point de rupture chez Eggers. Pour la première fois, en fait, on a l'impression que The Northman semble répondre directement à notre époque contemporaine de spectateurs blasés, comme tu disais, ce qui ne me semblait pas vraiment le cas de ces deux précédents films, dans le sens que là, le film s'inscrit dans un tout récent courant de films qui semble pousser le genre qu'ils explorent. Donc ça peut être la comédie, l'horreur, la science-fiction, mais en fait le genre dans lequel ils s'inscrivent, ils le poussent jusqu'à la limite, la démesure, l'excès, l'extrême. Donc l'exemple le plus récent de ça, c'est Everything Everywhere All at Once, donc ce film un peu fou dont tout le monde ne fait que parler et qui côté comédie et puis exploration du multivers, il y va fois mille. Donc ça mélange les dimensions, les références cinématographiques, ça pousse le délire très très loin, et que ce soit l'esthétique, les blagues ou le rythme même du film, on est dans une proposition excessive dans le même style, c'est-à-dire le style un peu qu'on pourrait dire délire et démesure. On a l'exemple de Malignant aussi qui est frappant, donc lui c'est plutôt du côté de l'horreur, mais on y trouve aussi cette espèce de mélange entre premier degré et second degré qu'on trouve dans The Northman. Malignant est complètement absurde et excessif dans sa démarche, comme l'est aussi Everything Everywhere, mais ça fonctionne. Et en fait, si on y réfléchit, c'est précisément parce qu'ils sont sur le fil de l'absurde et de l'ironie sans l'être complètement qu'ils fonctionnent. Donc Everything Everywhere prend malgré tout très au sérieux son sujet, donc qui est cette relation mère-fille compliquée, même si on a des images qui peuvent paraître de prime abord ridicules, comme elles peuvent l'être dans The Northman. Mais là, dans ce film-là, je veux dire, c'est quand même le trou noir d'un gros bagel qui symbolise la dépression d'un personnage du film. Donc ça reste sérieux malgré tout.
J'ai pas encore eu la chance de voir Everything Everywhere All at Once, mais c'est clair que Malignant, c'est un autre film des dernières années que j'ai terminé sans trop savoir quoi en faire, notamment parce que les 30 premières minutes fonctionnent un peu comme une genre de c'est une fausse piste. Puis finalement, on se retrouve devant un film qui rentre parfaitement dans la catégorie, comme tu disais, des films excessifs. C'est un film qui est en fait ni bon ni mauvais, j'ai l'impression, tellement il s'amuse à piger volontairement d'un bord comme de l'autre en refusant de faire la distinction naturelle entre les deux.
Oui, exactement, c'est ça. Puis dans The Northman, il y a ça aussi. Il y a cet équilibre qui menace toujours d'être rompu, mais qui rompt jamais. Donc en fait, voilà. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le spectateur est complètement intégré à la démarche du film. Donc si on rit, c'est jamais aux dépens du film, jamais aux dépens de The Northman ou de Malignant, mais plutôt à ses côtés. Donc on se retrouve un peu complice du réalisateur. Alors, il faudra confirmer si c'est une coïncidence du calendrier ou une véritable tendance, mais on voit quelques œuvres en ce moment qui creusent ce sillon. Je pense aussi au film Gore de Sadness. Bon, lui, il s'inscrit déjà dans un courant un peu malade mental, mais là, on sent que le réalisateur, il est ironique, lui aussi. Il y a cette espèce de mélange entre voyez jusqu'où je peux aller dans le délire et ben, je suis sérieux quand même. Voilà, je parle dans un contexte de pandémie, par exemple. Donc, en science-fiction, on peut aussi penser à un des gros hits de l'année passée, dont on avait d'ailleurs parlé dans un autre podcast, qui est Beyond the Infinite Two Minutes, qui lui, il avait cette idée folle de tout filmer en un plan séquence, puis pousser un peu le film du voyage dans le temps, et cette idée de décalage temporel jusqu'à l'extrême, finalement jusqu'à l'infini, comme le dit le titre. Puis côté blockbuster, on pourrait dire aussi récemment le dernier Batman, il va pas de main morte non plus dans sa peinture un peu émo et super sombre du super-héros. Donc on nous joue quand même du nirvana.
Deux fois plutôt qu'une.
Voilà. Donc pourquoi on insiste à ça en ce moment, à cette tendance à l'outrance, disons. Peut-être que cette surenchère, elle sert non seulement à épater le spectateur blasé, comme tu disais, d'aujourd'hui, mais aussi à retenir son attention hein, dans des genres où on pourrait penser avoir tout vu, aussi à une époque où on a accès à beaucoup, beaucoup de films sur toutes les plateformes, en plus du cinéma. Puis The Northman, comme les films qu'on vient de citer, c'est aussi un film spectacle. Donc, en plus de jouer la carte du toujours plus de violence, toujours plus d'idées folles, toujours plus de concepts visuels absurdes, ces films En fait, sans réfléchir avec la complicité du spectateur, sinon ça ne marcherait pas, sur ce spectacle qu'ils sont en train de lui dérouler. Mais un spectacle qui est absurde, enfin, je veux dire Malignant avec ce jumeau encastré à l'arrière de la tête. Enfin, je dis comme ça, c'est dingue. Donc, c'est ça, ce sont...
Puis si c'était juste ça, je veux dire, tu me dis ça, puis je suis comme, et ce n'est rien comparé à tout ce que vous réservera Malignant. Là.
C'est vrai.
Malignant, c'est comme un peu, c'est le clickbait des films, là, je veux dire.
Mais c'est exactement ça, il joue la surenchère pour attirer l'attention, et donc on a un espèce de mélange bizarre entre sérieux, ironie et jusqu'au boutisme, puis ça, on le retrouve aussi dans The Northman, très clairement.
Bref, moi, je ne sais pas toujours ce que je pense de The Northman, mais quelques semaines après l'avoir vu, puis plusieurs mois après avoir vu Malignant, je ne suis pas encore exactement sûr non plus de savoir ce que j'en ai pensé. Mais je pense que, bref, The Northman, ça reste un film qui vaut la peine d'être vécu en salle, ne serait-ce que pour en sortir complètement déboussolé. Merci Céline d'être venue en parler avec moi. Merci aussi pour ce retour franchement intéressant sur la carrière de Robert Eggers, dont on attend, je pense, définitivement le prochain film avec beaucoup, beaucoup de curiosité, peut-être même quelques appréhensions.
On y sera pour voir ça. En tout cas, merci à toi pour l'invitation.
Miracle à Milan de Vittorio De Sica est un film plutôt unique dans l'œuvre du réalisateur du voleur de bicyclette, mais aussi dans l'histoire du néo-réalisme italien. L'éditeur Criterion nous en proposait tout récemment une toute nouvelle édition. Et pour parler du film, je suis avec Carlos Solano, qui est critique à 24 images. Bonjour Carlos.
Bonjour Alexandre.
Alors, comme je le mentionnais à l'instant, les gens qui connaissent De Sica pour le voleur de bicyclette vont peut-être avoir une petite surprise en voyant Miracle à Milan, parce que c'est un film qui s'éloigne à certains égards de ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie néo-réaliste, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Et puis, bon, après, voilà, je pense que c'est toujours une bonne idée de parler du néo-réalisme italien, puisque, voilà, sans lui, il serait très difficile d'imaginer ce que le cinéma est devenu par la suite. Et aujourd'hui, je viens donc, comme tu disais, je viens donc parler de Miracle à Milan, de Vittorio De Sica, réalisé en 1951, qui est un film néo-réaliste, mais qui, j'ai mené une petite enquête autour de moi, autour de mon cercle d'amis cinéphiles, et c'est un film qui, voilà, je constate, n'est pas particulièrement apprécié. Je pense qu'on l'a tous découvert dans la foulée des grands classiques du néo-réalisme, donc, voilà, Rumville ouverte, Albania n'est zéro, La Terre tremble, etc. Et c'est vrai que la tonalité de Miracle à Milan, elle peut faire exception et peut déranger lorsqu'on est totalement habitué aux grandes tragédies humaines de Rossellini ou de Visconti. Alors voilà, Miracle à Milan est un peu à l'écart donc, du néo-réalisme, qui est ce grand tournant dans l'histoire des formes, dans la façon de concevoir et de pratiquer le cinéma. Hein. On peut peut-être rappeler très brièvement ce que le néo-réalisme c'est, enfin, et dire que, voilà, que le néo-réalisme émerge dans le contexte donc de l'après-guerre, même si les préliminaires commencent à être ébauchés dès 1943, notamment par quelqu'un comme Visconti, et que voilà, c'est un courant, c'est un mouvement qui se caractérise essentiellement par des tournages réalisés en extérieur, donc loin des studios, loin de Cinecittà, qui est le plus grand studio de production du cinéma italien à l'époque, donc avec des tournages dans des décors naturels, dans des lieux dévastés par la guerre, parfois même en dehors des grandes métropoles, donc de la périphérie de Rome ou de Milan, comme c'est d'ailleurs le cas dans Miracle à Milan, puisque voilà, à l'exception d'un plan où l'on reconnaît très clairement Il Duomo, donc la cathédrale milanaise, le film de Sica échappe volontairement à la dimension carte postale de Milan, et il s'intéresse davantage aux marges, aux périphéries, aux banlieues milanaises, comme c'était d'ailleurs déjà le cas dans Le voleur de bicyclette, également réalisé par De Sica, tourné à Rome et dans sa périphérie. Mais voilà, du néo-réalisme, on retient principalement sa vocation documentaire très forte. Hein, le paysage et le décor ne sont pas renvoyés dans la profondeur de champ, hein, ce ne sont pas des accessoires, mais des vecteurs, des moteurs pour l'action. C'est très important, puisque le néo-réalisme, c'est d'abord une attitude, une position, une prise de position devant le réel, hein, qu'il faut respecter, il ne faut pas le modifier, il ne faut pas le transformer. Et Miracle à Milan, donc réalisé en 1951, trahit, pour ainsi dire, un principe fondateur du néo-réalisme, lorsqu'il intègre par exemple l'irruption du fantastique dans le récit, donc dans le réel. Alors, en deux mots, très schématiquement, hein, le film raconte l'histoire d'une communauté d'itinérants qui habite dans un bidonville, donc dans la périphérie de Milan. Sauf que, voilà, miracle ou malédiction, il se trouve que le terrain dans lequel habite cette communauté est un endroit où le pétrole abonde. Donc, très vite, un homme d'affaires, un bourgeois, va vouloir acheter le terrain et chasser ses habitants. Bon, voilà, je dévoile pas la suite, mais bon.
Non, et c'est très bien comme ça, parce qu'on veut quand même que les gens aillent voir le film ensuite. Mais même si aujourd'hui, c'est peut-être pas le film qu'on connaît le mieux dans l'œuvre de Vittorio De Sica. Et puis, comme tu le disais, je pense qu'il y a même certaines personnes qui ont leur réserve à propos de Miracle à Milan. À l'époque, ça reste un film qui obtient une certaine reconnaissance critique.
Oui, et puis même une consécration presque totale au festival dans lequel il est présenté. Hein. Donc, il est réalisé en 1951. C'est la quatrième palme d'or dans l'histoire du Festival de Cannes. Hein. 1951, c'est l'année où, par exemple, en compétition officielle, on trouve des films comme All About Eve de Mankiewicz, Les Contes of Man de Powell et Pressburger, Los Olvidados de Luis Buñuel, donc des films qui sont quand même pas mal.
Mais oui, c'est ça, la compétition est quand même féroce.
La compétition est féroce, mais c'est quand même Vittorio De Sica qui remporte la Palme d'Or. Et le film, il est tourné dans un contexte où le néo-réalisme italien, il est à son sommet. Hein. Alors bon, malgré son caractère un peu bande à part, Miracle à Milan, il est conçu par les grandes têtes pensantes du cinéma italien de l'époque. Donc Cesare Sabatini va notamment scénariser le film. Sabatini étant quelque part le père spirituel et théorique du néoréalisme, qu'il concevait presque comme un dogme et une religion. Le chef opérateur sera Aldo Graziati, qui est un incontournable aussi du néoréalisme. Il avait notamment assuré les cadrages totalement virtuoses de La Terre tremble de Visconti. Et il sera aussi le chargé de la photographie de L'Othello d'Orson Welles, qui n'a rien à voir avec le néoréalisme, mais qui est aussi un film complètement délirant du point de vue de ses cadrages. Alors Miracle à Milan aussi, il va être monté par Eraldo Di Roma, qui est une figure aussi cruciale, qui avait assuré le montage de Rome ville ouverte ou du voleur de bicyclette, et qui deviendra par la suite un inséparable de Michelangelo Antonioni dans les années 60. Donc voilà, tout ça pour dire que d'accord, Miracle à Milan fait exception par sa tenue, par sa facture visuelle, mais il est quand même porté par des grandes boussoles artistiques et même théoriques du néoréalisme italien. Alors, juste avant Miracle à Milan, Vittorio De Sica, il a tourné Le voleur de bicyclette, donc immense succès et sorte d'étendard du mouvement néoréaliste. Et si Miracle à Milan s'écarte légèrement ou abandonne certaines consignes pratiques du néoréalisme, comme par exemple, comme je disais, le sacrifice du réel au profit du fantastique, c'est en partie pour deux raisons. Alors, il y a une raison génétique, c'est-à-dire que le projet est initialement conçu par Sabatini, le scénariste, donc dans les années 30, donc avant l'avènement du néoréalisme. Le projet, voilà, il va être censuré, saboté sur la base d'un scénario jugé beaucoup trop déprimant. Donc le scénario va être réécrit, puis le tournage il va être interrompu par l'éclatement de la guerre. Puis voilà, deuxième raison, plutôt de tonalité pour ainsi dire, Miracle à Milan est un film qui fait tache au cœur du néoréalisme italien, puisque le film cultive un certain sens de l'humour, de l'ironie, voilà, du burlesque, ce qui d'ailleurs est une marque de fabrique assez spécifique à Vittorio De Sica. Et contrairement à d'autres têtes pensantes du néoréalisme comme Visconti ou Rossellini, qui sont par ailleurs pour le coup beaucoup plus crus, beaucoup plus marxistes, intello, voilà, dans le bon sens du terme bien sûr, De Sica c'est quelqu'un qui au contraire conçoit ses films plutôt comme des fables, comme des contes, pas du tout infantilisant ou détaché de sérieux, hein, mais porté par une certaine légèreté qui rappelle évidemment celle de Charles Chaplin, hein, ou le cinéma de René Clair, moins connu et pourtant tout aussi précieux pour De Sica, dont il s'est d'ailleurs réclamé plusieurs fois sans la moindre ambiguïté.
C'est drôle que tu mentionnes ces deux cinéastes-là, parce que c'est pas nécessairement les deux premiers noms qui nous viennent en tête quand on pense à De Sica.
Non, mais bon, après, bon, je mentionne Chaplin et René Clair, non seulement parce qu'ils ont été cruciaux pour De Sica, mais aussi parce que c'est des cinéastes qui très tôt dans leur carrière se sont portés ou tournés vers la représentation du prolétariat, de la pauvreté, de l'exploitation sociale, une dimension qui sera évidemment vertébrale, hein, pour le néoréalisme italien. Et c'est d'ailleurs le sujet central de Miracle à Milan, hein, ou du moins de toute la première partie du film, avant le fameux miracle en question, voilà, dont je ne dévoilerai pas, je vais pas divulgâcher les ressorts ni la nature. C'est-à-dire que, comment dire, De Sica est très attentif à la représentation de la misère sociale, à l'image du pauvre, avec des images extrêmement détaillées, avec un regard qui vient détailler, subtiliser, complexifier, et qui vient même finalement expliquer ce que signifie, ce qu'implique d'être pauvre dans l'Italie des années 50, du début des années 50. Et on pourrait dire, on peut dire, je pense, que les 10 premières années de la carrière de De Sica consistent en cela. Hein. C'est comprendre et figurer la pauvreté, c'est le sujet, le véritable sujet politique de De Sica. Pour Visconti, c'est le collectif, c'est la communauté. Pour Rossellini, évidemment, c'est l'effondrement moral provoqué par la guerre et le fascisme. Mais pour De Sica, c'est la pauvreté. Hein. C'est les gestes de la pauvreté, c'est les gestes concrets de la misère sociale. Alors, ça peut paraître évident, mais ça ne va pas de soi. Hein. C'est-à-dire que, bon, à l'exception de quelques-uns, de Chaplin et René Clair, il n'y a pas 36 exemples dans l'histoire du cinéma de cinéastes ayant placé au cœur de leurs préoccupations politiques et esthétiques la question de la pauvreté. De Sica, de la même façon que Chaplin et René Clair, échappent justement aux recettes hollywoodiennes qui envisagent la pauvreté non pas comme une condition sociale et politique que le cinéma peut éventuellement expliquer, argumenter ou combattre, mais qui conservent la pauvreté, et c'est ça tout le problème d'Hollywood, c'est qu'ils conservent la pauvreté comme une sorte de psychologie torturée plutôt photogénique, comme un ressort cathartique, comme un enjeu purement narratif ou comme un argument de vente, hein, pour attirer le public. Et d'ailleurs Bruno, notre chef rédacteur, d'ailleurs il en parlait très très bien récemment à ce micro, de ces fictions qui confisquent la question de la pauvreté pour mettre en valeur les stars plutôt que les conditions sociales qui poussent l'individu ou un groupe d'individus vers la pauvreté.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez aller écouter cette discussion qui partait des exemples de Nomadland et de Wistreham, c'est évidemment disponible sur le site de 24 images. Mais bon, qu'est-ce qui, selon toi, distingue, par exemple, un Vittorio De Sica d'une approche comme celle de Juliette Binoche et Manuel Carrère, pour nommer ceux-là, par exemple?
C'est exactement tout le contraire. Hein. C'est-à-dire que Sica, il se place à l'opposé de cette attitude ou de cette méthode. C'est-à-dire que dans Miracle à Milan, il va, par exemple, construire, à mon avis, une anthropologie, un traité du pauvre. Il va par exemple, dans une très belle scène, montrer comment une communauté se rassemble autour d'un rayon de soleil, seul moyen pour eux de se réchauffer. Il va aussi montrer la peur d'avoir faim, une peur qui se transmet de génération en génération. C'est quelque chose qui revient souvent chez De Sica. Un an plus tard, par exemple, il va réaliser Umberto D, qui est également une étude et un film politique très fort sur les gestes de la pauvreté et de la faim F-A-I-M. Bon, Miracle à Milan est un peu plus optimiste que Umberto D, qui pour le coup est d'une tristesse infinie. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir les deux films côte à côte et d'essayer de comprendre ce qui s'est abîmé, pour ainsi dire, dans le regard que De Sica porte sur la misère sociale. C'est-à-dire comment on est passé du collectif, de la solidarité de Miracle à Milan, à la solitude la plus totale d'Umberto D, une solitude qui n'est pas du tout métaphysique comme chez Antonioni plus tard, mais c'est une solitude qui est sociale, qui est politique. Voilà, qu'est-ce qu'être seul politiquement et socialement? Qu'est-ce que veut dire être, que signifie d'être lâché par la société, par l'État? Voilà, c'est ça le sujet d'Umberto D, ouvertement inspiré par ailleurs du père de Vittorio De Sica. Alors je ne dirais pas pour autant et par comparaison que Miracle à Milan est un film naïf. Je le qualifierais plutôt de film chaplinesque, justement. Chaplinesque, puisque comme Chaplin, comme Charlot, Miracle à Milan décrit le phénomène de la misère, de l'appauvrissement social comme une chose bien réelle, mais portée par une dimension très absurde. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que comme dans les films de Chaplin, la pauvreté n'est pas une fatalité, mais une construction politique absolument délibérée qui permet à la bourgeoisie d'exister. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment le film renonce à la pornographie affective, c'est-à-dire que le plaisir et l'humour ne passent jamais par le pauvre en tant que pauvre, mais par les mécanismes qui le rendent possible et même pensable. C'est-à-dire que concrètement, ça passe par la représentation des bourgeois, des capitalistes, qui veulent, dans le film en l'occurrence, se saisir d'une parcelle de territoire pour exploiter le pétrole qu'il peut potentiellement contenir. Et la métaphore, elle est absolument géniale au passage. C'est-à-dire que la richesse, elle est là où sont les pauvres. La pauvreté est un fertilisant pour les riches, qui ne seraient pas riches si les pauvres n'existaient pas. Miracle à Milan raconte exactement cela. Ce qui est au fond une très marxiste comme approche quand on y pense.
C'est fou parce que tout ce que tu me dis depuis le début me fait aussi penser à l'œuvre de Fellini, une sorte de portrait social un peu plus carnavalesque et qui s'éloigne un peu de ce qu'on pourrait qualifier d'austérité, généralement associée au néo-réalisme.
Oui, bah, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, dans le film, tout l'engrenage totalement absurde au regard de la bourgeoisie et de la spéculation sauvage et déshumanisante, telle qu'elle est présentée par De Sica, elle anticipe, comme tu le dis très bien, Alexandre, le cinéma de Fellini et même musicalement l'œuvre de Nino Rota. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de joie, de vitalité, qui éloigne Miracle à Milan, qui éloigne donc le film du registre un peu grave, sombre, mais nécessaire évidemment, des autres films néo-réalistes, et qui, quelque part, à mon avis, semble tourner vers l'avenir du cinéma italien et vers l'avenir de ce que deviendra plus tard, plus précisément aussi, le cinéma de Vittorio De Sica. Quelques années plus tard, donc à travers la grande période un peu moins stimulante, à mon avis, de la comédie italienne dans les années 70. Et le côté naïf et chaplinesque du film, pour le préciser un peu plus, il renvoie, à mon avis, à l'un des grands piliers du néoréalisme italien, c'est-à-dire l'enfant. Ici, l'enfance, dans Miracle à Milan, l'enfance n'est pas du tout un motif. C'est comme chez Rossellini ou dans les premiers films de De Sica, l'enfant n'est pas un motif, c'est plutôt une méthode, une attitude, une façon de voir le monde. C'est un esprit presque enfantin et c'est connu. L'enfance occupe de façon générale une place prépondérante dans le néoréalisme. L'enfance, c'est un peu le regard par lequel on se projette, on peut, bien sûr, dans un monde où l'horizon ne fait pas trop rêver après la guerre. Alors, on connaît surtout, évidemment, les déambulations, l'errance des enfants dans le cinéma de Rossellini. Mais chez Vittorio De Sica, le motif de l'enfant, il est aussi crucial et structurant. Précédemment, par exemple, il avait réalisé Chouchia, Les enfants nous regardent, Le voleur de bicyclette, où les enfants sont la moelle épinière du film. Et dans Miracle à Milan, le squelette narratif n'est pas porté par des enfants à proprement parler, mais l'esprit du film, il est très émerveillé. D'où quelque part, à mon avis, la question du miracle, hein, qui est un motif qui parcourt tout le film et qui rejoint quelque part le registre enfantin du film. C'est-à-dire que pour un enfant, presque tout est miracle. Hein, les choses apparaissent pour la première fois, le monde se dévoile à l'enfant. Voilà, c'est un monde sans détermination, sans surdétermination. Et en voyant le film, je pensais à une très belle formule de Chris Marker, je crois que c'est dans Le Tombeau d'Alexandre, où il dit... voilà, au fond, le miracle est simplement une forme plus attentive du quotidien. Et à mon avis, c'est exactement ça ce que fait Jessica. Hein, c'est-à-dire qu'il filme chaque événement comme un miracle. Voilà, un rayon de soleil, une rencontre amoureuse, un sourire, etc. Autrement dit, il redécouvre à travers ce film toutes ces petites choses qui informent et forment notre quotidien pour le rendre un peu plus vivable et respirable. Et évidemment, cette attitude raconte au fond quelque chose du rapport qu'avait Vittorio De Sica lui-même au cinéma, hein, c'est-à-dire un rapport presque aussi d'enfant.
Dit comme ça, ça donne évidemment le goût de voir ou de revoir et peut-être de réévaluer ce film un peu peut-être sous-estimé qui est Le Miracle à Milan de Vittorio De Sica. Et puis ça tombe bien parce que, comme on le disait plus tôt, le film est désormais disponible, gracieuseté de Criterion, dans une toute nouvelle version restaurée. Carlos, merci d'être venu nous en parler ici au balado de 24 images.
Merci à toi, Alexandre.
Tu reviens quand tu veux. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés cette semaine encore. On se dit évidemment à dans deux semaines. Et d'ici là, bon cinéma.